fond des filets, tu la ramasses.
Radio Galère.
Bonjour à toutes et à tous, les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct des locaux du comité Maméga, comme tous les derniers jeudis du mois sur les ondes de Radio Galère, 88.4 en modulation de fréquence ainsi qu'en DAB+. N'oublions pas notre fenêtre ouverte sur le monde, www.radiogalère.org, et nos podcasts qui vous permettent de tout suivre et de ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux grandes écrivaines noires, éloignées géographiquement mais unies par l'écriture et par une même lutte. Celle de la dignité, de la mémoire et de la reconnaissance. Toutes deux sont issues de milieux modestes, voire très pauvres dans le cas de la brésilienne, et partagent un héritage commun, l'Afrique, berceau de leurs ancêtres arrachés à leur terre lors de la traite négrière et de l'esclavage, tragédies humaines qui ont enfanté de la colonisation. À travers ces deux figures, le comité souhaite transmettre un message d'espoir, croire en ses rêves malgré les obstacles. Ce fut le cas de Carolina Maria de Jesus, écrivaine brésilienne autodidacte, et de Françoise Zega, écrivaine martiniquaise et marseillaise d'adoption, qui a vécu et est décédée dans nos quartiers, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Saint-Barthélemy. Ces deux femmes, par leurs mots et leur parcours, nous rappellent que la littérature peut être un acte de résistance, mais aussi une manière de transformer la souffrance en force et la marginalisation en lumière. Espérons que l'émission de ce jour apportera une bouffée d'oxygène permettant aux habitants, notamment de nos quartiers populaires, de découvrir des champs du possible à travers leurs exemples. Avec nos invités, nous allons tenter de rendre possible ce qui aurait pu paraître impossible. Yes, we can. Avant tout, première pause musicale. Adieu foulard, adieu madras. Rappelons les départs des Antillo-Guyanais vers la France, parmi lesquels Françoise Zega. Derrière cette chanson populaire, c'est toute une page de l'histoire des Antilles qui s'exprime. Celle des départs, des séparations, et de la douleur de quitter sa terre natale. Le foulard, le madras, symbolise l'attachement à la culture créole, à la beauté et à la fierté des femmes antillaises. Leur adieu traduit la rupture avec tout un monde, celui des origines, des traditions, du pays, de la famille que l'on laisse derrière soi, souvent contraint par les circonstances économiques ou sociales. Gilles Sala, adieu foulard, adieu madras.
Adieu, foulard, adieu, madras, adieu, vendor, adieu, collier chaud, doudou, à moi, qui cabati, hélas, hélas, c'est pour toujours, doudou, à moi, qui cabati. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Pour demandé autorisation pour empêcher tout doux à moi parti. Pour demander autorisation pour empêcher doudou à moi partir. Ma demoiselle, il est trop tard, les connaissements sont déjà signés et le navire est sur la bouée. Dans un instant va pareiller et le navire est sur la bouée. Dans un instant va pareiller. Adieu Madras, adieu Grenoble, adieu Golieschou, tout doux à moi qui a parti. Hélas, hélas, c'est pour toujours, tout doux à moi qui a parti. Hélas, hélas, c'est pour toujours.
Vous écoutez les Échos du Grand Saint-Barthélemy sur 88.4 FM et sur DAB plus canal 8C. Vous pouvez nous contacter au 07 49 53 26 38. Le thème de l'émission de ce jour, plume en dialogue, France-Brésil, paroles d'écrivaines afro-descendantes. Nos invités d'aujourd'hui vont se présenter. Rafaela Fernandez.
Bonjour.
Fernandez.
Bonjour.
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 Est-ce que tu peux te présenter?
Ok, merci. Bon, je suis ravie de rester ici avec vous pour parler de Caroline et Françoise Zega. Malheureusement, mon français n'est pas bon, donc comme ça, je vais parler en portugais et mon ami va traduire peut-être. Je suis étudiante brésilienne, d'origine favelada et tive pela primeira vez contato com a Carolina Maria de Jesus na universidade pública.
Bom, e como étudiante, ela é d'origine des favelas elle-même. La première fois qu'elle a eu contact avec l'œuvre de Carolina Maria de Jesus, ça a été à la fac.
E a partir daí eu iniciei todo processo de letramento racial e busquei conhecer não apenas a vida e a obra de Carolina, como de vários escritores, intelectuais e artistas negros, e pudemos finalmente encontrar Françoise Zega nessa caminhada.
E a partir da leitura do trabalho de Carolina Maria de Jesus, ela se mise a s'intéresser à l'œuvre de nombreux écrivaines et artistes noirs, et comme ça, de fil en aiguille, elle est arrivée au travail de Françoise Zega.
E espero poder contribuir pouco para fazer com que vocês possam conhecer a Carolina, a vida e a obra, e entender por que Françoise Zega se relacionou tão diretamente, se contactou diretamente com Carolina de Jesus.
Voilà, j'espère pouvoir contribuir à ce que vous connaissiez mieux Carolina, sa vie, son œuvre, et à comprendre pourquoi ça a été un déclencheur d'écriture, en quelque sorte, pour Françoise Zega.
Voilà, donc, et puis Jean-José Mesquen, France Amérique Latine.
Ben, on se connaît depuis longtemps à Radio Galère, et ainsi que toute la bande du comité Maméga. Je m'intéresse à la question, effectivement, parce que je suis très lié à la culture brésilienne. Je fais des émissions de musique brésilienne à Radio Galère. Et Par ailleurs, m'intéressant aussi beaucoup à l'histoire du travail et du mouvement ouvrier à Marseille, j'ai trouvé tout à fait exceptionnel le témoignage de Françoise, qui, à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, est un témoignage absolument unique sur la condition de femme de ménage, et plus particulièrement de femme de ménage originaire des Antilles, à Marseille. Et j'ai été très frappé en travaillant dessus, sur la qualité littéraire. Je dirais que Françoise Hégat a une écriture extrêmement classique, sobre. Elle va directement à l'os, elle ne fait pas d'effet, elle ne fait pas de chichi. Et l'extraordinaire lucidité, qu'on pourrait dire après coup politique, de, là aussi, sans tout le charabia militant qui quelquefois vous décourage, comment quelquefois en deux phrases, elle vous analyse une situation, des rapports de pouvoir. Donc je pense que c'est une très grande écrivaine.
Merci à vous pour votre présence. Revenons à l'origine de cette émission. Rafaela Fernandez a mené une recherche intitulée « Caroline et Françoise, une rencontre rhizomatique de deux voix, ou voix de cheminée, féminine, noire, très déracinée ou enracinée. » À l'heure de ce titre, difficile de ne pas penser à l'Afrique, berceau de l'humanité, et à l'un des symboles les plus puissants, le baobab. L'arbre à palabre, lieu de parole et de mémoire de la transmission. Ses racines profondes et ses rhizomes multiples évoquent la force du lien, la résistance, mais aussi la circulation des idées, des cultures et des histoires. Le terme rhizome, justement, est un concept développé par Gilles Deleuze et Félix Guattari pour désigner une pensée non hiérarchique, mouvante et en réseau. Il a été ensuite repris par Édouard Glissant, qui en a fait un pilier de sa réflexion sur l'identité relationnelle, une identité ouverte, connectée et en mouvement. Auteur auquel se réfère Rafaela dans la dernière partie de son sujet de recherche, souvent dans son article. Nos invités maintenant vont réagir à ce titre. Comment expliquer simplement à nos auditeurs et à nos auditrices le lien entre Carolina Maria de Jesus et Françoise Hégat prend ici tout son sens. Deux femmes noires issues de mondes différents, mais reliées par des racines invisibles, des rhizomes symboliques qui plongent dans la même histoire et se déploient dans des directions multiples. Parmi nos invités, nous accueillons Jean-Pierre Hégat du comité et fils de Françoise Hégat. C'est d'ailleurs grâce à lui que la rencontre avec Rafaela Fernandez a pu avoir lieu. Jean-Pierre, peux-tu nous dire, pour nos auditeurs et auditrices de Radio Galère, dans quelles circonstances cette rencontre s'est-elle produite ?
Alors bonjour à vous. Donc, j'ai rencontré Rafaela lors du colloque international à Sao Paulo. Rafaela faisait partie d'une table ronde et donc intervenait. Et donc, nous avons sympathisé, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de ses travaux, et donc me disant qu'elle avait un projet de venir sur Marseille. Et du coup, j'ai pensé qu'il serait intéressant de savoir quel était l'objet de sa recherche et d'en savoir un peu plus sur Carolina Maria de Jesus, bien sûr.
Donc, on a du coup cette explication entre le lien entre Jean-Pierre et Rafaela, et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, notamment toi Rafaela, sur le lien entre Carolina et Françoise Hégat?
D'accord. Bom, eu gostaria de iniciar essa parte da minha explicação lendo um trecho de Carolina em homenagem ao Dia Nacional do Livro, que foi 29 de outubro ontem.
Pour commencer, je voudrais lire un texte de Caroline qui a été écrit à l'occasion de la Journée nationale du livre qui a lieu au Brésil le 29 octobre, donc hier.
Et qui também foi será marcado como o dia da maior chacina brasileira numa favela brasileira de pessoas negras.
Et qui restera marqué dans l'histoire comme le jour du grand massacre dans une favela. Vous savez qu'il y a eu, sous prétexte d'une opération quartier propre des centres de police, un massacre de près de 130 habitants. Imaginez, dans le quartier de la Busserine, la police passe et on retrouve 130 cadavres dans la rue.
E Carolina diz assim: quem não tem um amigo, mas tem um livro, tem uma estrada.
Et Carolina dit: qui n'a pas d'amis, mais a un livre, il a une route devant lui.
E foi assim que François Egade, dentro de um ônibus, como vocês devem saber, conheceu Carolina, através de uma reportagem que falava do seu livro Quarto de Despejo, traduzido como Le Dépotoir, em 1962.
E c'est comme ça que François Egade, lors d'un trajet en bus, comme vous le savez, a découvert, grâce à un reportage dans un magazine, l'histoire du livre de Carolina Maria de Jesus.
Trajeto esse que marcava a trajetória de François Egade de um bairro nobre até onde estamos agora nesse comitê numa periferia.
Et ce bus, eh ben, c'était celui qui marquait la trajectoire de Françoise entre un quartier bourgeois et celui où nous sommes maintenant, un quartier de banlieue.
Trajeto esse que eu tive a oportunidade de fazer junto com a minha amiga Raíssa Inocêncio.
Et ce trajet, j'ai eu l'honneur de le faire avec mon amie Raïssa Inocêncio, qui était ici avec nous.
Et observer comment que essas relações raciais, sociais et de gênero qui uniram Carolina et François Egade ainda se mantêm ao longo dos tempos.
Et lors de ce trajet, j'ai pu observer comment les relations sociales, raciales et de genre qu'on constatait dans l'écriture de François Egade, ben, sont toujours présentes aujourd'hui.
Carolina ainda diz: eu disse, meu sonho é escrever. O branco responde: o que as negras devem fazer é ir pro tanque lavar roupa.
Carolina raconte: j'ai dit, mon rêve c'est d'écrire. Et le blanc a répondu: ce que les femmes noires doivent faire, c'est laver notre linge.
Obviamente que esse contato dessa literatura que aparece muito mais do que deleite, mas como uma capacidade de criar traço histórico.
Alors, il est évident que cette littérature est beaucoup plus qu'un plaisir personnel, c'est l'occasion de laisser une trace dans l'histoire.
E caminho de conhecimento uniram essas duas escritoras no que o Glissant vai chamar de uma poética da relação.
Et le chemin qui a relié ces deux écrivaines et celui que Édouard Glissant appelait une poétique de la relation.
Comme dit ce même auteur, le même est la différence sublimada et le diverso est la différence consentida.
Comme l'a dit cet auteur, alors le même, c'est la différence sublimée.
Et le diverso.
Et le différent.
Non, la diverso.
Oui, mais en général, divers, on dit différent. C'est la différence qui a pris sens.
Donc, quand Carolina lê, quand François Egade lê Carolina, elle encontre pontos de igualdade, pontos de diferença. Mas sendo duas mulheres provenientes de culturas e ancestralidade negra, passam por mesmos processos de violências que são résultats d'une colonialité.
Alors, quand Françoise lit Carolina, évidemment, elle rencontre des différences. Mais toutes les deux ont ceci de semblable, qu'elles sont des femmes noires dont la condition est issue de processus coloniaux.
Donc, la littérature, pour les deux, transformer sa vie narrative passe à être simplement vivre.
Donc la littérature pour l'une et l'autre est pas seulement un récit, c'est aussi une vie.
Et donc là, c'est le principal point que je pense de confluence entre les deux.
Et à mes yeux, c'est ça le principal point vers lequel elles convergent.
Je me pose une question personnellement. Donc du coup, on a l'histoire de la rencontre entre Françoise et Carolina. On a aussi, du coup, en vous écoutant, l'histoire de la rencontre entre vous et Carolina et l'histoire de la rencontre entre vous et Françoise. Mm-hmm.
Rafael?
Bom, eu encontro a Françoise Hégard através do livro Lettres à une Noire, né, que originalmente é Letras, Cartas a uma Negra.
Moi, j'ai retrouvé Françoise Hégard através do livro Lettres à une Femme Noire.
E, nesse momento, é inevitável a observação de que há muitas Carolinas pelo mundo.
E, a esse momento-là, é um momento inevitável de pensar que há plusieurs Carolinas dans le monde.
E assim como Carolina, embora eu tenha lido, encontrado o primeiro texto de Françoise Hégard a partir do elemento autoficcional, que são essas cartas diário, eu tive interesse em conhecer toda a literatura dessa autora.
E como l'élément de autofiction qui se révèle de Carolina, ça m'a déclenché, ça m'a réveillé l'intérêt de trouver d'autres littératures de femmes.
E aí, nesse sentido, a ligação é direta, né, num sentido de que eu tive a mesma ânsia de conhecer e entender como que é a produção literária dessa autora e em que medida, sobretudo, nós podemos perceber as diferentes formas de desigualdade social, que, no caso, a gente é evidente em relação à França e o Brasil, mas a racial ela é igual, ao que me parece, em toda parte do mundo.
E, dans ce sens, j'ai eu l'envie de connaître la littérature afro-féminine, mais qu'il y a des différences entre France et Brésil, mais les rapports raciaux sont les mêmes.
Et du coup, est-ce que du coup dans cette quête de trouver plusieurs, enfin les Carolinas du monde, donc vous êtes tombé sur Françoise Hégard, est-ce que vous avez d'autres exemples de Carolinas qui ont écrit sur cette expérience?
No Brasil, nesse momento, nós temos diversas escritoras negras que passam a entrar em evidência. Não que nunca sempre existiu escritoras negras, mas a Carolina ela foi a primeira que teve a oportunidade de se lançar no mercado editorial nacional e internacional. Foi a primeira que teve essa visibilidade.
O Brasil, il y a plusieurs Carolinas que commencent à être connues. Malgré le fait que Caroline, c'est la première qui accède au espace du pouvoir éditorial, au marché national international.
E isso se passou justamente por interesse de revelar uma escritora que poderia dizer o que era a vida na favela, ou seja, dentro da ideia de estigma, e não de uma escritora em si, mas a curiosidade de saber o testemunho da favela.
Et Caroline, elle a attiré l'attention de ces marchés éditoriaux parce qu'elle représentait une espèce de stigma, blessure, caractère de la pauvreté, dans un certain sens esthétique de la pauvreté. Mas você ia citar outras Carolinas.
Sim, e aí eu poderia citar Conceição Evaristo, Miriam Alves, Maria Firmina dos Reis. Então, são diversas escritoras que a gente pode citar no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, na França, Marie Condé, que a gente falava agora. Né? Então, a gente tem várias autoras.
Miriam Alves, Conceição Evaristo...
Marie Condé.
Maria Firmina. E o Brasil, on peut citer como des exemples, Conceição Evaristo, que é vivante, Maria Firmina dos Reis, que é uma ancienne écrivaine do 19e século, e Miriam Alves, e à l'international, como on parlait tout à l'heure, on pense aussi à Marie Condé.
Marie Condé, du coup, qui était aussi une contemporaine à Françoise Hégard.
Je voudrais juste ajouter qu'une bonne partie de ces écrivaines sont aujourd'hui traduites en France grâce au travail d'une personne que je voudrais saluer ici, qui est Paola Anacaona, qui est une petite éditrice qui a monté une maison d'édition toute seule avec ses petits bras. Et ça commence à marcher. Donc, allez lire ça, ça vaut le coup, on apprend beaucoup de choses. Et en plus, il y a un très beau travail d'éditeur, les livres sont très beaux.
Nous la saluons. Tu peux redire son nom et son...
Paola Anacaona. Et le nom de l'édition, c'est Anacaona.
Très bien. Alors nous allons passer à la... On va continuer en musique. Donc, seconde pause musicale, une traversée symbolique de l'Atlantique où les mémoires et les âmes se répondent. Vous allez écouter un extrait inspiré de Qualto de Despero. Despero, c'est en espagnol. Despero, c'est en jogue. Œuvre emblématique de Carolina Maria de Jesus. À travers sa voix et ses mots, c'est tout un peuple oublié qui reprend vie, celui des femmes, des pauvres et des invisibles. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, toujours dans les échos du Grand Saint-Barthélemy. Nous avons été rejoints pendant la pause musicale, un petit peu avant la pause musicale, par Armando Cox, président du collectif Claude McKay. Est-ce que tu peux nous te présenter ?
Tu as déjà commencé à le faire, donc merci d'être accueilli en tout cas à cet événement. Et, bon, ça fait plusieurs années que je travaille à Marseille, donc au moins une trentaine d'années. Et l'association Mamega, c'est une association que je connais au moins depuis 30 ans. C'est à peu près le temps que je connais aussi le responsable de l'association, notamment Jean-Marc Ega. Moi, je m'occupe du collectif Claude McKay depuis une vingtaine d'années, un personnage aussi... intéressant que génial qui a passé ici à Marseille et qui est en gros on peut dire que l'une des premières personnes qui a pu mettre même cette prolétariat noir de Marseille de ces quartiers pauvres et particulièrement autour du port de Marseille et à qui j'ai consacré comme pratiquement toute ma carrière à la fois de journaliste mais aussi d'anthropologue et plus essentiellement de quelqu'un qui suit cette diaspora noire et transatlantique, c'est-à-dire que entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Donc voilà, je pense que ça suffirait, non ?
Oui, alors moi je suis un petit peu curieux, du coup la question que je me pose c'est en quoi ont consisté vos travaux en sciences humaines, en sciences sociales ?
C'est justement ce que je travaille à un moment de la question diasporique.
Okay.
La question diasporique et plus spécialement la diaspora d'origine africaine, ou plutôt D'accord. diaspora afro. Afro ou panafricaine, si vous voulez, mais en tout cas, c'est la diaspora qui sont issus de l'Afrique et qui sont qu'on retrouve aussi bien en Amérique, en France en Europe et en Amérique du Sud. Il s'est avéré que dans mon enfance, j'ai passé énormément de temps, jusqu'à mes 20 ans, je l'ai passé au Brésil, plus précisément, d'abord à Belo Horizonte et ensuite à São Paulo, où j'ai fait mes études. J'ai commencé à faire mes études d'anthropologie. Et c'est là, effectivement, que j'ai pu aussi aborder, commencer à voir les questions raciales, comment occuper un petit peu l'espace dans lequel je vivais, en constatant, par exemple, à l'université USP, donc l'université de São Paulo, si vous voulez trouver, par exemple, des Noirs, vous le comptez quand même sur le bout des doigts, contrairement, par exemple, aux Brésiliens, nippo-brésiliens, par exemple, qui sont d'origine japonaise. Et là, ça commençait quand même à me poser des questions. Pourquoi cette invisibilité des étudiants noirs à l'université, une des grandes universités quand même brésiliennes, il faut le dire.
D'accord. Tout ce que vous venez de dire, ça résonne avec des choses que j'ai entendu Raphaëlla dire tout à l'heure, notamment sur la question raciale. Et est-ce qu'on peut quelque part établir quelles similitudes, peut-on établir sur les questions raciales, notamment sur les questions des diasporas noires, entre la France et le Brésil, et peut-être spécifiquement Marseille et le Brésil?
Il faut dire qu'en fait, la question de la présence, si j'ai bien compris ta question, c'est toujours un peu compliqué, voire même hasardeux, d'arriver à faire une comparaison, même du point de vue structurel. Donc, la pauvreté, là, en venant ici, j'ai croisé une dame dans le bus qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous allez parler dans cette rencontre ?» Elle m'a dit qu'on va parler de la question de la pauvreté. « Ah, mais les pauvres, il y en a partout dans le monde. » Effectivement, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on ne peut pas faire la hiérarchie de la pauvreté et qu'il y a quand même des communautés qui sont quand même beaucoup plus pauvres que les autres. Et on ne sait pas, on le sait tout à fait pourquoi cette communauté-là, ils sont pauvres. Pas uniquement des questions économiques. Et s'il y a des questions économiques, c'est les premiers à être atteints par les problèmes. Donc, c'est essentiellement les étrangers, les Noirs, les Arabes, en ce qui nous concerne ici et à Marseille. Quand on fait les regards, par exemple, si on veut faire un parallélisme avec ce qui se passe au Brésil, le problème, c'est que pendant longtemps, on a quand même souvent évoqué la question « Ah, ce n'est pas du racisme, c'est plutôt un racisme économique. » Moi, je n'ai jamais compris cette expression de racisme économique, en tout cas. Et ça, et même des intellectuels noirs brésiliens sont arrivés à gober cela en disant que non, il n'y a pas de racisme au Brésil, mais il y a plutôt un racisme économique. Bien sûr qu'il y a le problème économique, mais qui sont les plus atteints par cette pauvreté? Pourquoi une université, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de nippo-brésiliens qui sont arrivés dans les années 20 au Brésil et particulièrement à São Paulo, et on trouve moins de noirs à l'université? Ça pose question. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question économique.
Tout à fait.
Comme brésilienne qui a habité à Marseille, je voulais juste faire peut-être une divagation. C'est que Marseille et Brésil ont une histoire de résistance. Et si j'ai aménagé à Marseille, c'est parce que pour moi, c'était l'endroit le plus proche du Brésil, au sens que c'est une ville portuaire, c'est une ville qui a cosmopolite, qu'il y a une immigration et surtout qu'il y a une histoire de résistance qu'on trouve aussi une histoire de résistance populaire. À Marseille, ça peut être une sensation, mais j'ai l'impression qu'ici, comme au Brésil, on a un mouvement populaire qui est partout, pas seulement dans la gauche caviar, je dirais.
dont je ne fais pas partie, en tout cas, rassure-toi. Rassure-toi.
À cause
de gauche, peut-être, mais caviar, non.
Très bien. Aucune autre réaction parce que ce qui a été dit soit par ici. Moi, j'ai juste envie de répondre quelque chose. Effectivement, il y a des noirs, des pauvres partout dans le monde, mais pour aller plus loin, il y a des noirs pauvres partout dans le monde, du coup. Alors, j'aimerais qu'on revienne à ce qui nous sert de support à cette émission, c'est-à-dire l'article de Raffaella. Est-ce que tu peux nous présenter cet article, s'il te plaît?
D'accord. Bon, nesse artigo, eu tentei mostrar como que, tanto para Carolina quanto para Françoise Egar, a impossibilidade de escrever, a impossibilidade de reconhecimento do ofício de uma escritora é perpassado pela questão racial e de classe.
Dans cet article, j'ai essayé de faire un parallèle de comment une personne est traversée tantôt par les rapports de classe, tantôt par les rapports de race.
Assim como também refletir sobre como se constitui uma literatura que poderia ser, por exemplo, considerada a partir desses exemplos como uma literatura afrodiaspórica. O que, que seria essa literatura afrodiaspórica a partir desse encontro entre Carolina e Françoise Egar?
E, donc, dans ce texte, j'envisage de penser, de réfléchir une littérature qui pouvait être une littérature afro-diasporique à partir de leur rencontre entre Carolina et Françoise Egar.
E como eu dizia, né, no caso das duas, transformar a sua vida em narrativa é simplesmente viver. Então, escrever para elas era a possibilidade de resistir diante de diversas atrocidades sociais, raciais e de gênero.
Et dans le cas de ces deux écrivaines qui transforment la vie dans la narrative, dans la narration, et tout simplement écrire pour vivre. Et cette possibilité de vivre dans l'écriture et vice-versa, elle est au-delà de toutes les difficultés, de tous les barrages qui les deux écrivaines vivent. Et donc c'est résister à partir de l'écriture.
Então, é uma literatura afrodiaspórica que está sempre convocando também uma memória, uma história para si, uma história negada, uma história que não é contada pela cultura hegemônica e que se constitui a partir de um discurso contracolonial.
E essa literatura afrodiaspórica, ela convoca a pensar uma memória, uma história pour soi-même, sur soi-même, et cette histoire, elle est niée, elle est invisibilisée, elle est rendue en silence pour la littérature hégémonique. Et donc, Carolina et Françoise Egar font une contre-colonialité littéraire.
As duas também partilham de uma condição de que, mesmo quando estavam publicando, não tiveram reconhecimento como escritoras na sociedade. E nesse sentido, eu vou citar a Carolina daqui a pouco.
Et ces deux écrivaines partagent une même condition, que même quand elles étaient publiées, elles n'avaient pas cette reconnaissance littéraire. Et c'est ça que je vais parler.
Et Carolina diz: Ele olhou-me e disse: Contei-lhes que um dia uma jovem bem vestida vinha na minha frente. Um senhor disse: Olha a escritora. O outro ajeitou a gravata e olhou a loira. Assim que eu passei, fui apresentada. É isto? E olhou-me com cara de nojo. Sorri, achando graça. Ela é a escritora vira-lata, disse a dona Maria, mãe do Ditão. Os passageiros sorriram e repetiram: escritora vira-lata.
Raffaella, ela fez uma citação de Carolina, que começa assim: Ele m'a regardé e lhe disse: Je l'ai dit qu'un jour, une jove bien habillée viendrait en face de moi. Un monsieur dit: Regarde l'écrivaine. L'autre ajeitou a gravata. Il a.
Avec sa cravate.
Avec sa cravate, il a regardé la femme blonde. Ainsi, je passais et j'étais présentée. C'est ça? Il m'a regardé avec une expression de dégoût. J'ai souri, j'ai trouvé drôle. Elle a été l'écrivaine viralate, l'écrivaine chien de rue. Viralate, juste pour la traduction, c'est une expression au Brésil pour les personnes qui sont pauvres ou des classes basses.
Il y avait autrefois à Marseille l'expression chienne des quais.
Voilà la traduction. Elle est l'écrivaine chienne des quais. J'ai dit à Dona Maria, mère de Ditão. Les passagers ont souri et ont répété « Écrivaine viralata, écrivaine chienne de rue ». Voilà.
Oui, on pourrait vous demander ce que vous inspire l'intervention de Rafaela. À tous les deux, oui.
Évidemment... j'ai moins étudié qu'elle, mais j'ai pas mal lu. Alors, je me suis plus intéressé, j'ai plus lu, relu et travaillé sur Françoise Héga que sur Caroline. Ce qui m'intéresse, c'est que, au-delà de leurs conditions, enfin des traits communs qui sont si bien soulignés par Raphaël, certaines différences. Il y a pauvreté, il y a misère, ce n'est pas la même chose. Françoise Héga était pauvre, Caroline était misérable. Françoise Héga travaillait comme femme de ménage, mais c'était déjà une intégration au marché du travail. Et d'ailleurs, elle passe par d'autres travaux. Il y a même un moment, un épisode extraordinaire, parce que ça n'est pas arrivé souvent, qu'une femme de ménage se rebelle contre sa patronne, en lui disant quel droit elle avait, qu'il y avait un code du travail et que si elle continuait, elle appellerait l'inspecteur du travail. Et la patronne n'avait jamais vu ça. Mais Caroline, quand elle est à ramasser des papiers dans les rues, voire quelquefois quand il n'y a pas assez de papiers à vendre pour le recyclage, à ramasser de la bouffe dans les poubelles en disant je vais bouffer. À un moment, elle raconte comment elle a récupéré quelques saucisses qui n'étaient pas trop sales parce qu'elle n'avait rien à manger ce jour-là, elle connaît la misère et la faim et la survie quotidienne. Et dernier aspect de différence, dans l'identité, tous les deux décrivent remarquablement des aspects de leur travail quotidien. Je voudrais insister là-dessus. Ce ne sont pas seulement des afro-descendantes, ce sont des travailleuses. Et il y a peu d'écrits dans la littérature en général, dans le monde entier, sur le quotidien du travail. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Il y a cette expression fantastique dans Françoise Héga. Au moment où elle a une chance de travailler, peut-être de sortir des maisons des autres et de travailler dans un bureau, où elle dit « Jusque-là, j'étais imprégnée du travail dans l'odeur des autres. » Et c'est ça, quand on fait le ménage chez les autres, on est dans l'odeur de l'intimité familiale, des maisons, etc. L'odeur à laquelle se confronte Caroline, c'est l'odeur des poubelles. Hein, elle est dans la rue. Et donc, il y a un certain nombre de choses comme ça, mais ça serait trop long de le reprendre maintenant. Il y a une attention aux gestes. Il y a peu de littérature qui parle, du point de vue des travailleurs, de commencer le quotidien du travail, les bruits, les odeurs, les gestes, encore moins de littérature féminine qui parle du travail. Et dernière séparation, Caroline, elle est dramatiquement seule tout le temps. Elle est en guerre. Elle dit à un moment, il n'y a jamais de solidarité dans la favela. Françoise, c'est quelqu'un qui est entouré d'une famille, même si quelquefois ça chauffe et son mari lui dit « Arrête d'écrire, hein, le papier, ça ne se mange pas à la vinaigrette. » Hein, c'est donc même à l'intérieur de sa famille, on lui dit tu n'es pas autorisé à écrire. Mais elle a un mari qui, quand elle n'a pas de boulot, va faire des heures supplémentaires sur le port. Elle a des enfants dont elle s'occupe et qui vont à l'école, ce qui est un problème dramatique pour Caroline. Donc il y a ce fait, je finirai là-dessus, dans la différence qu'on a du mal à imaginer d'un point de vue européen. Ben, j'ai trouvé récemment dans un film sur les gens qui ont fait la théologie de la libération, c'était un prêtre belge qui disait « Moi, je viens d'un milieu ouvrier très pauvre en Belgique. Je croyais que c'était la pauvreté. Et quand je suis arrivé au Salvador, j'ai vu que jamais j'aurais pu imaginer avant d'être là. Et il y a cet écart entre les deux, quand même, de être pauvre, noir et avoir un travail dans un pays qui est au centre du système impérialiste mondial et un mari et quelquefois elle-même à l'intérieur d'un marché du travail formel avec des droits, si petits soient-ils, et être quelqu'un qui quotidiennement n'a que ses bras pour vivre et qui a tout à affronter tout seul.
Eu gostaria de fazer um comentário suplementar. Quando ele diz que dessas relações e diferenças, né? A Carolina dizia que ela foi também faxineira e ela dizia que ela escolheu não trabalhar mais em casas de família, escolheu o ofício de catadora de lixo para sobrar tempo para escrever. Assim como ela se negou a casar porque dizia que nenhum homem haveria de dormir com uma mulher ao lado de uma mulher que escrevia à noite e dormia com uma caneta embaixo do travesseiro.
Raphaël a envie de rebondir e ela diz que Caroline elle a été aussi femme de ménage et elle a mais en fait elle a décidé de travailler dans la rue en récoltant des poubelles. Parce que pour elle, c'était plus, il y aura plus de temps pour écrire. Et aussi, elle a décidé de ne pas se marier parce qu'elle voulait pouvoir dormir dans la nuit toute seule avec un stylo à côté d'elle. Et qu'un mariage, ça pouvait empêcher son office d'écrivaine.
Nenhum homem iria aceitar isso.
Et aucun homme accepterait ça. Voilà.
Alors juste pour compléter ce que disait notre collègue, c'est vrai effectivement, Françoise Aigat était modeste, mais situation modeste, mais nous n'étions pas pauvres. Nous avions des amis, des camarades qui étaient dans la même situation que nous. Il y en avait plein, tout notre immeuble. Il y avait des personnes pauvres, mais nous n'étions pas pauvres. Modeste, certes, mon père travaillait, et ma mère a eu cette expérience de femme de ménage pendant 2 ans, de 62 à 64. Mais il faut savoir qu'elle faisait aussi, elle vendait des perruques à l'époque, elle vendait des tupperwares. Elle organisait des manifestations à la maison pour vendre d'autres. Donc, elle avait d'autres compétences et d'autres. Voilà. Elle n'était pas obligée de faire des ménages pour vivre. Mon père y travaillait, il était facteur. Même quand elle était femme de ménage à l'espace culturel Busserine dans les années 72-74, jusqu'à sa mort d'ailleurs, 74-76, jusqu'à sa mort. Elle était femme de ménage, mais elle se retrouvait aux réunions du conseil d'administration avec son directeur et elle pouvait lui dire « tu dis n'importe quoi, là je ne suis pas d'accord avec toi ». Donc elle avait aussi cette capacité d'être dans le contre-pouvoir et de se positionner, non pas comme quelqu'un d'inculte. Lorsqu'elle faisait durant son expérience de femme de ménage, elle faisait le ménage, mais avec beaucoup d'humour, on retrouve cet humour-là dans ses livres, avec beaucoup de distanciation et de hauteur, je dirais même, par rapport à la société bourgeoise dans laquelle elle travaillait. Et il lui est arrivé même de faire, pendant qu'elle faisait le ménage, tout en repassant, elle pouvait tout à fait aider la fille du docteur, qui était nulle en français, à faire sa dissertation. Et la gamine revenait le lendemain toute fière avec un 14 ou un 16 de moyenne. Donc elle avait des compétences autres. Et elle a voulu vivre cette expérience dans les familles bourgeoises pour se rendre compte de cette réalité que décrit ses compatriotes, mais voilà, elle avait quand même d'autres auteurs. Et la condition de femme de ménage n'a duré que 2 ans.
Eu gostaria também de fazer completar a fala de Jean-Pierre, porque é muito comum, inclusive no Brasil, nesse momento, quando se pensa a obra de Françoise Aigat junto com Carolina, associar essa literatura sempre ao lugar do testemunho, da pobreza, do sofrimento, da fome e desse lugar da subalternidade. Porém, é muito importante levar em consideração que essas literaturas, enquanto literaturas afrodiaspóricas, também trazem outros aspectos, né? Desde a questão da escrevivência, quanto, por exemplo, rememorar a sua ancestralidade. Le Journal de Bitita, de Carolina, assim como Le Ton de Madra, de Françoise Aigat, por exemplo, vão trazer a história de seus avós, que são ancestrais negros, e elas trazem a importância dessa oralidade, desse aprendizado, desde a infância, para dentro da sua literatura de memórias.
Raphaël Rambaudi, les commentaires. qui, pour complémenter aussi, parce que c'est très commun l'association de ces écrivaines à la à un endroit de pauvreté, de souffrance, de subalternité. Mais néanmoins, si on réfléchit bien, c'est des écrivaines qui font une littérature afro-diasporique. Et là, Raphaël, elle a fait une citation d'une écrivaine qui s'appelle Conceição Evaristo, qui a créé un style littéraire au Brésil qui s'appelle Escrevivência. Et on pourrait la traduire littéralement comme l'écrit de la vie. De vie. Escrevivência, ça veut dire écrit de vivance, de vie. Et cette escrevivência, cette écrit expérience de vie, ça sert à remémorer, à faire une mémoire de l'ancestralité. C'est-à-dire, quand Caroline écrit Journal de Bichita et Françoise Zega écrit Temps de Maga. Ça fait des références aux grands-parents et donc à une oralité qui, depuis l'enfance, depuis l'éducation d'enfance, ça montre une expérience de vie, une expérience vécue qui va aussi illustrer et donner la force de la littérature afro-diasporique.
Merci beaucoup. Alors, au milieu de toute cette passion et de toute cette densité d'informations, nous allons faire une petite pause musicale avec Bidonville de Claude Nougaro.
Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi. On peut se croire égaux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler, camarade, bientôt. Bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarades. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarades.
Toujours en compagnie avec les échos du Grand Saint-Barthélemy qui, à travers cette émission spéciale, sort de ses sentiers battus avec ses invités. Claude Nougaro, dans le morceau Bidonville, adopte ici une chanson de Baden Powell et Vinicius de Moraes, c'est bien prononcé, sous la plume, presque bien prononcé, sous la plume de notre artiste, le berimbau, cet instrument emblématique du Brésil, devient bidonville. Derrière ces notes, on entend résonner les réalités des favelas brésiliennes, ces quartiers précaires où malheureusement le drame s'invite encore. Comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, Rafaela, 64 morts lors d'une récente intervention policière à Rio. Mais le Brésil, ce n'est pas que la douleur, c'est aussi l'espoir et la mobilisation. Dans quelques mois, Belém accueillera la COP30, grande conférence internationale sur le climat, un rendez-vous crucial pour la planète et pour l'Amazonie. Refermons cette parenthèse d'actualité et revenons à notre sujet, la force des mots, la puissance d'une chanson ou d'un livre, quand la musique ou la littérature deviennent miroirs du monde. Donc, question posée à Rafaela, mais également à l'ensemble de nos invités. En quoi la relation entre Rafaela et François Zega, entre Carolina et François Zega, évoque-t-elle l'idée d'une sororité noire diasporique?
Pour être honnête, j'ai découvert François Zega par l'intermédiaire de son fils, donc mon ami Marc, et il y a quelques années. Ensuite, c'est par l'intermédiaire encore de Jean-Marc que j'ai découvert finalement cette écrivaine, Carolina Maria de Jesus. Mais en fait, avant ça, je connaissais pas du tout la littérature noire brésilienne parce que j'étais quand même un peu dans un milieu intellectuel, disons-le sans tergiverser, dans un milieu intellectuel blanc. Il faut bien le dire, et que l'aspect de la culture, c'est un petit peu comme mes enfants qui sont nés ici et qui très souvent l'image qu'ils ont d'un bon noir, c'est un noir américain, et qui, alors qu'ici, même ici en France, il y a des noirs qui sont des très grands intellectuels et qui sont riches, qui sont pas forcément pauvres. Et comme le disait Miles Davis, est-ce que vous avez déjà vu dans un film un noir prendre l'avion avec ses deux Bugatti dans l'avion et qui va se promener dans le Côte d'Azur avec ses deux bagnoles? En tout cas, écoute, vous avez vu ça dans un film. Il dit non, mais voilà, c'est pour cela que nous avons créé le cinéma noir, qui s'appelle le Black Exploitation. Mais je fais ces parallélismes par rapport à Caroline et Françoise. C'est que je trouve intéressant, au-delà de cette écriture, de vie, hein, écrivain, je trouve qu'il y a quand même une espèce de poétisation de la pauvreté et de la misère. Et cette poétisation là, c'est aussi une manière d'intégrer, hein, c'est une manière d'intégrer ceux qui sont pas dans les romans, mais les intégrer comme personnages, en tout cas en tant que tels dans un roman. Et c'est là je me rappelle aussi de tous ces écrivains diaspora, de la diaspora noire, qui aujourd'hui ici en France refusent de dire que finalement c'est une littérature noire ou une littérature africaine. C'est une littérature tout court, et je pense que la littérature de Caroline de Jesus et de François Zega, c'est de la littérature. Au-delà de la condition de femme, au-delà de leur milieu dans lequel ils vivent. C'est une littérature, une grande littérature.
Bon, eu aproveito então também para fazer um ampliar aqui o pensamento em relação a essa ideia de uma literatura afrodiaspórica. Acho que eu já falei bastante dessa relação do pertencimento e da possibilidade de criar uma política e uma poética unidos para pensar outras formas de narrar o mundo, de ser e estar no mundo.
Je vais profiter pour amplifier les débats à cette idée d'une littérature afro-diasporique. Disons que ces écrivaines font une littérature qui fait les partages, l'appartenance, et aussi une poétique politique et d'autres manières d'occuper le monde.
Acho que algo muito interessante quando eu penso a literatura dessas duas escritoras e que eu coloquei nesse artigo é uma maneira como elas descrevem a natureza, por exemplo. Carolina, por exemplo, ela não vai falar sol, ela vai se reportar ao sol usando uma palavra, uma maneira de se reportar ao som de matriz banto. Pro colega como a angolano deve já ter escutado muito a expressão astro-rei. E aí nós sabemos que Carolina, por exemplo, ela é descendente dos Cabindas, porque ela diz que o seu avô era um Cabinda. E quando a gente lê a Françoise Hégar descrevendo o vento do outono de Marseille e como ela sente esse vento no seu corpo, a gente também percebe como ela traz um olhar proverbial para o espaço. E eu acho que esse elemento proverbial na obra das duas e essa relação com a natureza seria uma das características dessa afro-ancestralidade e desse sentimento e dessa sensação de pensar a paisagem dentro da literatura.
Une autre chose que je voulais remarquer, que c'est très intéressant, c'est la manière que ces deux écrivaines décrivent la question de la nature. Carolina, par exemple, elle décrit pas, elle utilise pas seulement les mots soleil. Elle dit, elle utilise une racine d'origine bantou, qui c'est aussi Angola, et qu'elle remarque comme astro-rei. C'est une manière bantou de s'y approcher du soleil. Carolina, elle a comme ancestralité Cabinda. Et lorsqu'on voit, par exemple, avec Françoise Hégar, quand elle décrive les vents d'automne de Marseille, de Massilia, elle amène aussi une relation, un regard proverbial, et donc qui nous ouvre toutes les deux écrivaines, une relation d'afro-ancestralité et qui nous fait sentir, mais aussi penser. Est-ce que je peux aussi faire un commentaire? Par rapport à la question de la sororité noire, moi, comme personne qui habitait à Marseille pendant le deuxième confinement, j'ai pu avoir une expérience vécue disons concrète avec ma communauté d'amis brésiliennes noires, racisées et blanches, et donc tous les dimanches on s'est retrouvés chez une amie, et voilà que si une personne n'avait pas les moyens de manger, on savait que tous les jours il y aura d'apéro, de dîner, et à nouveau cette solidarité, elle était très marquée par la question des races et genre et classe. Et à ces moments-là, c'était important de voir comment... Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de Brésiliens riches. Et donc, il y a les Brésiliens qui viennent dans la galère. Et les moments du 12e confinement, c'était vraiment un moment de solidarité qu'on a pu faire des connaissances. Et surtout qu'on voit comme nous, on s'est approchés, on était plus solidaires. Et que si on était au Brésil, on n'aura pas l'opportunité de se faire connaissance.
Em relação à sororidade, enquanto no feminismo branco no Brasil se fala de uma irmandade entre mulheres, sororidade, quando se pensa em mulheres negras, e isso eu explorei também nesse artigo, nós temos que falar de dororidade, porque se tratam de dores que somente mulheres negras sentem entre si. Então, eu também, além de pensar essas questões da ancestralidade, também passei um pouco por essa discussão dessa dororidade que é pertencente ao discurso tanto de Carolina quanto de Anne-Françoise Agar e que representam uma condição da mulher negra no que a Lélia Gonzalez, que é uma feminista negra brasileira, vai chamar de uma condição de mulheres negras na América Latina e Caribe. Então, nós estamos não na América Latina, mas numa América africana, uma América Latina.
Dans mon texte, je travaille aussi une distinction entre sororité, qui est très liée au féminisme blanc, qui partage une espèce de solidarité, et une dororité.
Comme douleurité.
Douleurité. Douleurité. Auquel les féminismes noirs partagent l'expérience aussi des blessures et des douleurs, d'où les termes douleurité. Et comme Françoise Agar, Caroline, partagent cette condition. Et ensuite, Raphaël, elle a fait référence aussi à une féministe noire brésilienne qui s'appelle Lélia Gonzalez. Vous pouvez trouver son texte traduit « La catégorie d'améfricanité », « La catégorie politique d'améfricanité », auquel elle a dit qu'il faudrait vraiment changer les termes qui nous représentent, notamment l'Amérique latine, ce n'est pas l'Amérique latine, c'est la Amérique latine et Caraïbes. Et donc, voilà. Je pense que j'ai traduit.
Bon, comme j'aime bien les questions qui fâchent, à partir de Françoise Agar aussi, il y a un passage très court, mais je pense que c'est le seul moment où elle a une ironie vraiment féroce, et c'est remarquable, c'est quand elle parle de ce qui était, donc, au début des années 60, les associations antillaises officielles. Et il y a quelques expressions extraordinaires. Elle parle de ces réunions de nègres superbes qui ne voulait absolument pas entendre parler du problème des Antillaises placées.
La MITAG et l'ACTAG, pour ne pas les nommer.
Voilà. Et donc...
La MITAG.
Et là aussi, pour le rapport à la tradition et aux ancêtres, c'est remarquable, parce que justement, ça l'exaspérait qu'à l'occasion des réunions formelles de ces associations qui essayait de donner une image de noir officiellement acceptable, dans leur fête étaient admis les foulards et les madrasses, mais un peu comme des déguisements. D'ailleurs, il dit, celles qui portaient dans ces associations des foulards et des madrasses, c'était plutôt celles qui avaient la peau la plus claire. Et en revanche, ces fameux nègres superbes les engueulaient quand elle sortait avec le costume qu'elle voulait dans la rue. Alors ça faisait scandale. Ça fait penser à des histoires de voiles, ça. Hein, pour la décoration, ça va, mais pas être visible. Et pareil pour la langue. Il réprouve violemment l'utilisation de la langue créole en public quand on était en France. Ça allait juste pour chanter « Adieu foulard et adieu madras ». Mais pas être soi-même dans la vie de tous les jours, vie publique comme vie privée. Donc effectivement, je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de débats assez âpres aussi dans les émigrations sur la manière dont on porte ce qu'on est, sa culture et sa langue, ou est-ce qu'on la cantonne dans une espèce de folklorisation.
Alors ma mère avait justement deux mots par rapport à ça. Elle adorait voir les femmes africaines en tenue africaine et elle n'hésitait pas à les aborder, à leur dire qu'elles sont très classes, qu'elles sont très élégantes. Et elle-même d'ailleurs, elle portait son madras, son foulard, quand elle le souhaitait ou parfois elle le faisait lors de manifestations dans le cadre des provinces françaises. Et j'ai plein de photos de ma mère en tenue créole sur la Canebière, déambulant avec des femmes antillaises, donc en tenue. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, puisque ma sœur y était, ma cousine y était. Donc, elle portait avec fierté son madras, non pas comme un élément d'un folklore mort, mais comme un élément de la culture antillaise bien, bien vivace. Et le madras servait également, donc, était un élément de pour la coquetterie, mais il y avait donc aussi des différentes lectures du madras en fonction des coiffes. Et le madras servait aussi pour attacher ses reins et pour se battre, pour aller couper la canne. Ma mère disait marre et reins et puis goumin, attache ses reins et puis bats-toi. Donc, donc le madras avait plusieurs fonctions. Et elle le portait avec fierté et elle n'hésitait pas à le porter non seulement à l'intérieur, hein, parce que nous avons des photos des enfants avec notre mère en tenue dans le groupe folklorique qu'elle avait créé, la CTAG à la Busserine, donc la CTAG. Donc elle était responsable du groupe folklorique Les Graines d'Or, puisqu'elle avait créé cette association pour se démarquer de l'association des notables antillais, la MITAG. Et donc c'était une représentativité avec des femmes de ménage, avec des dockers, avec des étudiants, avec des mères de famille. Et beaucoup de familles militaires qui appartenaient à la MITAG ont rejoint ma mère, justement, parce qu'ils se retrouvaient dans cette représentativité, dans cette nouvelle proposition.
Je voulais juste ajouter la question qui Raphaël a bien abordée dans son article. C'est cette histoire de faire entrer une sorte de littérature, pas seulement littérature féminine, mais c'est d'une part, on voit cette littérature que l'élite intellectuelle appelle, d'ailleurs l'expression, on le retrouve même dans d'autres pays comme en Angola et Mozambique, on dit le preto gay. Donc c'est le preto gay, c'est le portugais des noirs. Donc en gros, on pourrait dire presque ici le petit nègre en fait. Hein, et qui Caroline écrit dans ces portugais là. Et que il pourrait pas entrer dans un système bien huilé des intellectuels des intellectuels brésiliens et pareil pour Françoise Ega, parce que on sait très bien, par exemple, il y avait quand même une élite intellectuelle noire antillaise, notamment représentée par le sœur Nardal, je ne sais pas si le sœur Nardal avait l'idée d'inviter Françoise Ega, ou plutôt quelqu'un qui écrit, même si du point de vue de la période, je ne sais pas s'il pourrait se rencontrer, mais voilà ce que c'est que le sœur Nardal, ils invitaient les intellectuels les intellectuels à cravate, quoi, comme on le dit.
L'avantage de Françoise Ega, c'est qu'elle était à l'aise dans les deux mondes. Elle était à l'aise avec l'élite parce qu'elle parlait un français très châtié. Elle pouvait regarder son dictionnaire si elle avait des mots à aller chercher, mais elle était très à l'aise dans l'oralité. Et elle était aussi à l'aise dans le créole, puisque à la maison, elle parlait créole. Alors que dans la société bourgeoise antillaise, à l'époque, on interdisait aux enfants de parler le créole de façon à ce que cela n'empêche pas de l'apprentissage du français. Voilà.
Mmh. Alors, avant de passer à la pause musicale, moi, tout ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose. Alors, ça a été évoqué notamment par Raphaëlla, cette idée qu'il y avait beaucoup, il y avait l'emploi de mots bantous dans la littérature, dans les écrits de Carolina. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que la langue bantou fait partie des langues africaines qui ont constitué la langue créole, martiniquaise notamment, dont on est en train de parler. Donc, effectivement, on voit que il est question justement de toute cette culture afro-diasporique qui est en mouvement et qui nourrit notamment et qu'on nourrit les deux littératures dont on est en train de parler. Et ça m'évoque quelque chose de supplémentaire, c'est que tu as dit tout à l'heure que le 29 octobre au Brésil, c'était la journée internationale du livre, c'est ça ?
Oui.
Alors je ne sais pas si vous savez, mais le 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue créole, des langues créoles. Voilà, donc ça m'a j'ai trouvé ça très très révélateur comme coïncidence.
Je fais des petites apartés, je fais court. Hein. Il faut savoir que ma mère revendiquait sa part de négritude. Elle le mettait en avant comme... Elle le revendiquait, hein, c'était pas quelque chose qu'elle cachait. Elle portait de belles perruques qu'elle vendait, Bayadère, etc., etc. J'ai oublié les noms, mais quand elle était en colère, elle prenait sa perruque, elle la jetait à terre et elle disait « Gardez-moi, pas jouer puis moi, regarde-moi, ne joue pas avec moi. Regarde mes cheveux grainés, ma tête grainée, regarde mon nez pâté, regarde ma lippe, n'oublie pas que je suis... Que moi, pas qu'à jouer, je joue pas, je suis une négresse. » Donc, et que soit, et elle nous a toujours incité, elle aurait souhaité qu'on épouse épouse une femme noire comme ta mère, avec de gros tétés pour de nourrir bien tes enfants, des enfants, faire des enfants bien costauds. Alors que bon, ça c'était a priori son souhait, mais quand on est dans la migration, chacun d'entre nous a épousé qui l'Algérienne, qui la Tunisienne, qui l'Américaine, qui la Réunionnaise, et elle aurait été très satisfaite de nos choix. Mais a priori, elle revendait cette part de négritude, et dans cette fameuse phrase qu'elle arborait tout le temps, je suis l'arrière-petite-fille d'une esclave Suzanne, et cela je ne peux l'oublier. L'oubli d'un certain cas est une trahison. Il nous appartient d'enseigner à nos petits-enfants leurs origines afin que dans la dignité, ils vivent désormais. Et aujourd'hui, les arrière-petits-enfants de François Degas, ils sont de toutes les couleurs. Ils sont de la couleur de l'amour. Et seul cela compte.
Je fico imaginando a explosão que seria o encontro entre François Degas e Carolina. Carolina que vai falecer um ano depois de François Degas. Carolina também tinha essa força dessa negritude que foi cortada em diversas publicações que foi realizada por homens brancos. Mas ela dizia, por exemplo, assim, eu gosto do meu cabelo negro. Onde eu coloco, ele fica. O do branco não, bate um vento e sai do lugar.
Raphaël, imagine le moment que Caroline fait une rencontre avec François Degas une fois que Caroline elle est décédée une année après François Degas. Et ensuite, elle raconte une histoire qui Caroline a dit j'aime bien mes cheveux parce que les...
Onde eu boto, ele fica.
Mm-hmm. Où je mets, il y reste.
Et, branco, non. Bate un vent,
et les cheveux des blancs, non.
Un coup de vent,
et ça va.
Merci pour ces partages. Ces partages très émouvants, oui.
Comme on parlait des dates commémoratives, je voudrais annoncer quelque chose qui se passe à Marseille à la fin du mois. Comme tous les ans, avec un certain nombre des maîtres de capoeira à Marseille, nous allons célébrer l'anniversaire de la mort de Zumbi dos Palmares, qui est, je dis souvent pour aller vite, c'est le Spartacus des esclaves noirs au Brésil. Et cette fête qui avait été longtemps créée par les mouvements noirs est devenue une fête officielle. C'est donc le jour national des luttes des Noirs, et donc de la conscience noire. Ça a eu plusieurs noms. Et donc, ça va être 3 jours... du 20 au 23 novembre, donc avec un certain nombre de manifestations autour de la capoeira et autour du thème cher à Mestre Jurun, un des grands maîtres de capoeira de Marseille, qui est celui de la traversée dans tous les sens. Et donc, par exemple, il y aura même des ateliers de danse d'Afrique de l'Ouest faits en rapport avec la capoeira.
Alors, en parlant d'échange et de transmission et d'échange, on va partager avec vous cet artiste qui est très important pour nous en Martinique, qui s'appelle Colobarst, avec le titre Posé.
En la nuit, sans la lune, attends, sans sommeil, d'œil en silencieux. L'humanité, presque à pied, passe l'agonie, c'est maintenant. En combat, Pucci, qui côté contre qui moune. Sans mauvais de l'eau, pêche à le virer, qu'on note la vie où.
Puisqu'il y a un Kay mama bel, 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 bel. Kay mama bel, 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 bel. Frère Xerpati Bonnet. Kay mama bel, 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 bel. Mais pour qui ça, sauf qui t'es nous? Mais pour qui ça, sauf qui t'es nous? La pécaille commence à cirer qui vous comprend. L'amour pas pris, faut qu'il l'amour. L'amour pas pris, faut qu'il l'amour. Caille maman belle, 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 belle. Méchanceté. Même si la peine dominait, lumière s'est virée. Où t'es dit maman, rete pleuré. Où c'est dit yogis, père fébri. Respect pour sommeil. Tout ça est tout frais. Poser, ich pays poser.
Comme nous avons commencé nos pauses musicales avec Gilles Salin, venu des Antilles, nous venons d'écouter le chanteur martiniquais Colobast. Dans ce morceau, il rend hommage à nos aînés et s'interroge pourquoi sont-ils partis. Revenons avec nos invités. Si vous deviez parler, garder une seule phrase, une seule image de ces deux auditrices, laquelle vous choisiriez-vous? Et puis, à travers leurs ouvrages, comment définiriez-vous ce que c'est une écriture diasporique? Quelle voix, quelle mémoire, quelle lutte s'entrecroisent? Enfin, en quelques mots, pourquoi faudrait-il lire Carolina et Françoise aujourd'hui? Qu'ont-elles encore à nous dire, à nous transmettre? Nous remercions chaleureusement nos invités d'avoir participé à notre invitation et d'avoir partagé leur regard. Nous vous écoutons.
Je crois qu'il faut les lire tout simplement parce que ça nous fait du bien à tous, d'ailleurs qu'on soit noir ou pas, de lire ce qu'ont écrit ces femmes qui, envers et contre tout, sont toujours restées debout, tête haute et fières de ce qu'elles sont. Et ça, c'est une littérature d'avenir.
Eu quero também justamente agradecer o convite, a oportunidade de conhecer o comitê e convidar a todos os leitores da língua francesa a lerem também Carolina. Existem 3 livros dela traduzidos aqui, então Elle est de Potois, Ma vraie maison, Le journal de Bitita, e assim espero que vocês possam encontrar também uma outra Carolina, uma outra Françoise Gard na outra parte, no sul do mundo.
E aí, depois eu vou falar do meu livro, vai. Raphaël, remercie l'invitation chaleureuse. Elle invite aussi les personnes francophones à lire Caroline, qui a été traduite en 3 livres, Le journal de Bitita,
Le dépotoir, Ma vraie maison.
Ma vraie maison. Et moi, Raïs Innocencio, je profite aussi pour remercier et je vais aussi faire une invitation. Je vous invite le 13 novembre à la librairie Wide Project. On va faire un petit rendez-vous pour la semaine, pour les mois de conscience noire. Et aussi, je vais présenter mon livre qui s'appelle « Guérir Vénus » sur la figure féminine, la question de la guérison face aux violences et aussi, à nouveau, les récits de l'expérience vécue. Voilà, 13 novembre à la librairie Wide Project. Merci beaucoup. À Marseille, toujours.
Moi, je voulais juste dire 2 mots. Qui m'ont beaucoup marqué. C'est vrai que en lisant l'article de Raphaël, c'est d'abord la question de la guérison symbolique. En quoi cette littérature peut être aussi peut apporter une guérison symbolique, c'est-à-dire qu'elle va au-delà du simple essentialisme noir et ça va au-delà de l'essentialisme. C'est-à-dire que c'était une littérature de guérison. Et deuxième chose, c'est que c'est une littérature aussi des relations. Et là, je pense à Édouard Glissant que tu as beaucoup utilisé, que tu as beaucoup dit, que moi j'adore aussi, et particulièrement par rapport à cette idée de la raison rhizomatique qui l'emprunte d'ailleurs à Deleuze, mais en tout cas c'est pas très grave. Le plus important, c'est la relation. C'est une littérature des relations, et qu'on soit lusophone, francophone, on doit vraiment connaître ces auteurs-là, qui sont souvent mis dans l'oubli parmi le monde intellectuel, soi-disant, des hommes à cravate.
En espérant que Carolina Maria et Françoise soient déjà pour beaucoup des femmes inspirantes et qu'elles donnent envie à d'autres Carolina, celles présentes partout dans le monde, à d'autres Françoises, Karima, Farida, Malika, Mouzna, issues de nos territoires, de tracer leur chemin, de faire entendre leur voix dans toute la dignité qui leur revient.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra consequência do que acabo de dizer, como é sua consequência inevitável de você. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra consequência do que acabo de dizer, como é sua consequência inevitável de você. Quanta gente tem por aí que para tanto e não diz nada, ou quase nada. Já vou te dizer de tudo isso, cai no final não deu nada, não sobrou nada. Vai se me dizer na casa da paixão.
Dernière partie avec les communiqués. Centre social Saint-Barthélemy, ex-MFA, informe qu'aujourd'hui, jeudi, fête de la cité SNCF de 14h à 17h. Demain, vendredi 31 octobre, fête forum organisée par les trois centres sociaux à partir de 14h sur l'esplanade devant le centre social des Flamands. Et reprise des ateliers pétanque au centre social Saint-Barthélemy. Espace culturel Busserine, mardi 4 novembre à 14h, projection du film Tirailleurs avec Omar Sy. Toujours le 4 à 20h, Comedy Club. Jeudi 6 et vendredi 7 novembre, c'est La Vida Compagnie de Facto, spectacle de danse, 9h40 et 14h. Jeudi 20 et vendredi 21 novembre, 9h40 et 14h40, aux Kids, compagnie 1000 tours. Samedi 22 novembre, 20h, festival du film court. Et samedi 25 novembre, documentaire, Violence faites aux femmes. Centenaire Franz Fanon. Vendredi 14 novembre, 19h au cinéma Le Gypsis, 136 rue Loubon, 13003 Marseille à la Belle de Mai. Projection du documentaire Fanon hier et aujourd'hui de Hassan Mézine. La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur. Samedi 15 novembre à partir de 14h à la salle Labo Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille. Rencontre débat avec Saïd Bouamama, sociologue et militant du FUIQP, sur l'actualité de la pensée de Fanon. Présentation par Bernard Genet, porte-parole de Comaguerre, de l'écrivain. Est-ce que tu peux m'aider à la prononciation?
Je ne serai pas plus fort que toi, hein. Ngui Wa Thiong'o.
Et de son ouvrage Décoloniser l'esprit, en écho direct à la pensée fanonienne. Pierre Lézot, Franz Fanon et le comité Mamega, et normalement en vision avec la Martinique, les militants du cercle Franz Fanon, co-organisateur. Radio Galère, le collectif Comaguerre, le comité Mamega et le Front uni des immigrations et des quartiers populaires.
Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Françoise Héga, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'elle est décédée quand même il y a 50 ans, le 7 mars 1976, vous avez un petit documentaire réalisé par Agiplus, que vous pouvez retrouver Agiplus France sur Facebook, sur YouTube aussi, l'histoire oubliée des femmes ultramarines, et sur Instagram, de femmes de ménage à héroïnes. Et donc, vu que nous sommes dans l'année de la commémoration de la mort, du décès de Françoise Héga, nous avons une manifestation le 13 et 14 mars 2026 à l'Espace culturel Busserine, où il y aura une présentation d'une pièce de théâtre Résonance par la compagnie de Yuri, comédien brésilien. Et à la suite de ces deux dates, il y aura donc un débat, une pause musicale et un apéritif justement pour, autour de ces deux écrivaines. 13 et 14 mars 2026 à l'Espace culturel Busserine.
Merci Jean-Pierre, merci à nos invités et à vous, auditrices, auditeurs. À travers ces plumes en dialogue, nous avons voyagé de Marseille à Sao Paulo, en passant par Fort-de-France et le Morne-Rouge. Merci à Sidi de Radio Galère, merci à la politique de la ville, l'État, la métropole et le département pour leur soutien dans notre démarche. Cette initiative radiophonique dédiée à la présentation de figures emblématiques ou des actions de terrain issues d'un quartier prioritaire de la ville de Marseille contribue, nous l'espérons, à changer, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que le regard porté sur le Grand Saint-Barthélemy en mettant en lumière ses talents, ses réussites et ses dynamiques positives. À très bientôt avec les échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère 88.4 FM et en DAB+. Henri Salvador, Jardin d'hiver, merci Sylvie.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.